Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Un avertissement avant de commencer cette émission, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute et dans quelles conditions et les histoires des gens qui nous écoutent, donc on fait un avertissement. Cet épisode va aborder des sujets sensibles, notamment le suicide d'un proche. Donc ceci étant dit, nous allons commencer et j'ai le plaisir d'accueillir dans Silence on Joue Sébastien Genevaux. Bonjour Sébastien.
Bonjour Erwan, plaisir partagé.
Et puis Marius Chapuis, qui est un de mes chroniqueurs favoris. Hein. Voilà, on va garder le rituel. Et puis donc c'est un Silence on Joue, donc spécialement centré sur cette rencontre avec toi Sébastien. Je te tutoie, je ne sais pas pourquoi, on ne se connaît pas, mais voilà, c'est on va faire comme ça.
Ça va être plus convivial.
À propos de la sortie de ton jeu Lie in My Heart, qui est sorti ces dernières semaines.
Le 4 octobre.
Et donc qui est un jeu, c'est un jeu très spécial, c'est un jeu autobiographique qui explore ce que tu as aussi appelé le jeu vidéo expressif, parce que au-delà d'être créateur de jeux vidéo maintenant, tu es aussi chercheur dans le domaine. Est-ce que tu peux d'ailleurs te présenter et présenter ton parcours qui t'a amené aussi jusqu'à ton parcours professionnel qui t'a amené jusqu'à la création d'un jeu?
Oui, en fait, moi, à la base, j'ai fait des études de cinéma, de fin des années 90, début des années 2000. Et en étudiant le cinéma, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des parallèles très forts avec ce qui était une passion depuis que j'étais enfant, le jeu vidéo, c'est-à-dire cinéma, quand il est apparu, considéré comme machine d'abrutissement pour le peuple, qui au fur et à mesure a été légitimé, notamment par les cahiers du cinéma, et, bon, entre autres, hein, sur le plan artistique. Ces études m'ont fait dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des liens à tisser entre le jeu vidéo et les autres arts? Bon. Et j'avais fait un mémoire à l'époque en maîtrise sur le sujet. Je visais un poste de game designer. En fait, je rêvais de pouvoir travailler dans le domaine. Et suite à une candidature tout à fait spontanée, alors je ne recommande plus aux étudiants de faire comme ça aujourd'hui, parce que ça ne marcherait plus, désolé. Mais j'ai réussi à décrocher un poste de game designer chez Ubisoft. J'ai travaillé pendant 2 ans sur un jeu qui s'appelle 13, qui d'ailleurs a été sur le point, je crois, d'avoir un remake ou quelque chose comme ça.
Hein. C'est le début des années 2000, hein, c'est ça?
Ouais, voilà, 2003. Et donc, en plein en lien avec déjà mes réflexions d'époque. Bon, mais l'expérience chez Ubisoft m'avait intéressé, mais j'avais développé vraiment un goût pour la recherche, hein, questionnement sur ce qui faisait du jeu vidéo une forme d'expression à part entière, sur ce qui fait du jeu vidéo un objet culturel. Et donc j'ai souhaité ensuite continuer plutôt en thèse. Et donc j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2006, qui était la première thèse française sur les jeux vidéo. Ça correspond aussi à cette époque, à l'émergence de ce qu'on appelle les game studies sur le plan international. Vraiment, la recherche sur les jeux vidéo commençait à se structurer. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai trouvé des postes, un poste de titulaire. Hein,
juste par curiosité, le sujet de cette thèse ?
Alors, le sujet de la thèse, le titre exact, c'était « Approche interculturelle et communicationnelle du game design de jeux vidéo ». Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça ? Ben, je m'interrogeais sur la façon dont un même jeu pouvait impliquer des joueurs du monde entier, alors même que le jeu est une activité culturellement construite. On n'a pas tous les mêmes idées du jeu, les mêmes connotations liées au jeu. Ça, je pourrais y revenir parce que ça, c'est assez important par rapport au jeu que je viens de créer là. Et comment une même œuvre peut impliquer des joueurs du monde entier qui ont des cultures différentes. Alors, est-ce qu'on est dans une optique d'uniformisation culturelle ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Donc, la réponse est c'est plus complexe que ça. Et donc, j'ai entre autres étudié World of Warcraft pour répondre à cette question. Et ça a donné lieu à une publication qui s'appelle « Le jeu à son ère numérique », qui est vraiment un bouquin qui synthétise un peu tout ça sur comment on analyse le jeu vidéo, comment on le comprend, c'est quoi le game design. Voilà, et pour cette thèse, je m'interrogeais aussi sur les processus un peu de la façon dont le modèle économique du jeu vidéo va formater les contenus. C'est-à-dire comment les modèles de distribution, de conception, de développement imposent des thématiques dominantes dans cette industrie. Et ce qui est intéressant quand on parle de thématiques dominantes, de représentation du monde dominante, c'est est-ce qu'il y a des logiques alternatives ? Et oui, il y en avait aussi et c'est encore ce qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. Et donc, à partir de la fin des années 2000, début des années 2010, je commence à travailler sur un concept de jeu particulier qui est ce que j'ai appelé le jeu expressif, qui est de se dire mais comment on peut développer un jeu pour se mettre à la place d'autrui et expérimenter ses problématiques de vie. Je partais notamment de réflexion d'un autre chercheur qui est très connu dans les game studies, qui s'appelle Gonzalo Frasca, qui se disait mais jeu vidéo c'est très bien pour expérimenter les problématiques de vie d'autrui, mais malheureusement, et il écrivait ça fin des années 90, début des années 2000, les jeux vidéo c'est essentiellement de l'heroic fantasy, de la science-fiction, de la guerre, mais on parle très peu de grand-mère par exemple dans les jeux vidéo, on parle très peu de drames de vie courante. Et moi ça m'a interpellé, je me suis dit mais oui, mais comment on peut, par le jeu vidéo, parler de thématiques du quotidien, un peu comme on fait dans la bande dessinée. Après tout, dans la bande dessinée, on a le roman graphique, où par exemple l'autobiographie est très forte. Hein, ce qui a permis à la bande dessinée d'être connue comme forme d'art, c'est des œuvres comme Maus de Art Spiegelman, qui a remporté le prix Pulitzer, qui parle de la Shoah, de façon autobiographique. Je me dis, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, des thématiques liées au réel, qui font naître des émotions comme la tristesse, l'empathie, après tout, c'est pas si courant que ça. Ah. Alors aujourd'hui, ça s'est pas mal développé dans les années 2000, mais enfin, je veux dire, par exemple, moi je fais souvent le test dans un amphi ou auprès d'une salle où il y a un grand public. Je dis qui a déjà pleuré au cinéma ? Allez, j'ai les deux tiers qui lèvent la main, les trois quarts, un quart qui ose pas se l'avouer. Après, je pose la question qui a déjà pleuré en jouant à un jeu vidéo ? Alors, quand on est face à des néophytes, il y en a même qui rigolent quand je pose la question. Et si je suis face à des joueurs, il y a un tiers, un quart qui lève la main. Et moi, ça m'interpelle comme expérience. Je me dis, mais on parle aujourd'hui de jeux vidéo comme forme d'art, comme forme d'expression, comme objet artistique et culturel. Pourquoi il y a des émotions qui sont sous-représentées ? Et donc, il y avait toutes ces interrogations-là que j'ai explorées dans ce concept de jeu expressif. Qu'est-ce qui fait du jeu une forme d'expression à part entière pour explorer la vie d'autrui, pour transmettre des émotions, pour parler de drames de vie courante ? J'avais fait un premier jeu en 2011 là-dessus aussi, parce que moi, ce qui particularise ma démarche, c'est que je fais de la recherche, mais je fais de la création aussi, comme je suis game designer. Et du coup, j'avais fait un jeu qui s'appelait, j'aurais changé le titre à l'époque, mais il s'appelle Keys of a Game Space, les clés d'un espace de jeu. Et où je présentais
c'est,
pas ça.
C'est un peu le titre d'un sujet de recherche, en fait, c'est plus que d'un jeu lui-même.
J'ai fait un jeu qui était vraiment comme une thèse. Quoi. Et oui, c'était aussi une façon d'affirmer le jeu peut être expressif, peut aborder des problématiques de vie. Alors, je ne le présentais pas comme une biographie, même si le personnage principal s'appelle Sébastien. Mais déjà à l'époque, ça parlait d'un sujet sensible qui est l'atteinte à l'enfance. Rapidement, le pitch, c'est le personnage principal. Sa femme lui donne un ultimatum. Elle lui dit, je veux un enfant, ça fait trop longtemps que j'attends. Je te laisse la nuit pour réfléchir. Mais là, si tu n'as pas pris ta décision, il y a risque de rupture. Quoi. Et donc, on replonge dans les souvenirs du héros de façon très métaphorique. Il revisite des scènes de son enfance, etc. Et on découvre que son père a été condamné pour pédophilie. Et donc, il y a tout un rapport entre le héros et la relation à son père. Est-ce qu'on le pardonne ? Est-ce qu'on le condamne ? Est-ce que... Bon, c'était un jeu très court, avec très peu de choix, mais des choix très impactants à la fin. Et j'ai des joueurs qui m'ont dit, vraiment, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, même si c'était très linéaire. Et d'une certaine façon, ça préfigurait déjà un peu ce qui s'est fait plus tard dans les Walking Simulator. Des jeux très linéaires, mais c'est pas l'embranchement qui compte. C'est la façon dont on peut visiter l'histoire. C'était vraiment ça. Et à la fin, un choix. Je pardonne, je pardonne pas. Comment je l'explique, quoi, cet acte. Et voilà. Et du coup, ce jeu a eu des retours assez favorables. Par exemple, il y a The Telegraph, qui est un peu l'équivalent de Libé du Monde en Angleterre, quoi, qui avait désigné le jeu comme un des 12 meilleurs jeux gratuits de l'année 2011. Parce que le jeu était gratuit, il l'est encore. Hein. Mm-hmm. Vous allez sur Reach, vous pouvez le trouver. Et du coup, moi, ça m'avait interpellé. Je me suis dit, ben oui, il y a un espace peut-être pour faire ce genre de jeu, même si c'est hyper marginal, voilà. Mais bon, il y a eu un écho un peu favorable. Bon, après, il y a eu des réactions aussi très virulente, hein, mais bon, moi j'ai pas fait ça pour que les gens trouvent ça fun ou divertissant, quoi. Voilà, moi ce qui compte c'est de susciter des réactions. Et voilà, et pendant toutes ces années, depuis le début des années 2000, je réfléchis à ça. Qu'est-ce qui fait le jeu expressif ? Est-ce qu'il y a une histoire du jeu expressif ? J'ai notamment beaucoup travaillé sur l'histoire du jeu d'aventure en France dans les années 80. D'ailleurs, je fais une petite pub, il y a un collègue qui s'appelle Alexis Blanchet qui va sortir l'an prochain une somme qui est l'histoire du jeu vidéo en France.
Non mais c'est un vaporware.
Ça
il sortira jamais.
Il va vraiment sortir. Je promets.
Non. Moi, j'y crois pas. Alexis Blanchet ne sortira pas son livre. C'est pas possible.
J'espère parce que donc justement, ce que j'allais dire, j'ai signé un chapitre dans ce bouquin. J'ai rendu le chapitre. Ça, c'est sûr. C'est pas du vaporware. Et ce chapitre parlera du jeu d'aventure en France dans les années 80. Ouais. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce concept de jeu expressif, bah pourquoi je l'ai formalisé ? Parce que je trouvais qu'il y avait un manque. En termes de même descripteurs analytiques, hein, pour qualifier ces jeux qui parlent du réel, mais qui n'essayent pas non plus de donner une solution toute faite. C'est des jeux qui parlent de thématiques sérieuses, mais qui ne sont pas des jeux sérieux, qui sont vraiment des jeux, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de terme pour qualifier ça. Donc moi, jeu expressif, c'est un peu ça. C'est un jeu qui exprime une problématique de vie et qui permet aussi aux joueurs de s'exprimer là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en France, dans les années 80, il y avait beaucoup de jeux. Enfin, beaucoup de jeux. Il y avait quelques jeux qui avaient déjà expérimenté ça, qui étaient complètement passés sous le radar, parce que c'était des jeux très marginaux, voilà. Et du coup, je suis tombé, par exemple, sur les jeux d'une certaine Muriel Tramis, voilà, qui a fait, dans les années 80, des jeux sur l'esclavage. Elle est martiniquaise. Elle a fait des jeux où on pouvait incarner un esclave en Martinique, et où il fallait s'échapper de la plantation. Voilà, des trucs. Mais je me suis dit, mais elle parle justement du regard sur la colonisation en France. Et elle avait fait son jeu avec Patrick Chamoiseau, qui plus tard a remporté le prix Goncourt, qui est un des théoriciens de la créolité. Je me suis dit, mais c'est hyper avant-gardiste. Et elle avait fait justement une sorte de pré-visual novel là-dessus, point and click et tout. Et donc j'ai rencontré Muriel. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Théorie des jeux vidéo, où j'ai fait un entretien avec elle, et elle m'a raconté son parcours, et justement, elle m'a dit, moi je voulais faire de l'histoire, parce qu'en Martinique, on n'apprend pas l'histoire de France. Enfin, on apprend l'histoire de France, mais on n'apprend pas l'histoire de la Martinique. Quand elle était jeune, elle dépendait du rectorat de Bordeaux, donc elle apprenait que ses ancêtres, c'était les Gaulois. Elle disait, mais non, mais moi, par le jeu vidéo, j'ai voulu parler de mon histoire coloniale. Voilà. Et moi, ça m'a fasciné. Je me dis, mais c'est fou, prendre un nouveau média, en plus une femme, dans les années 80, dans le jeu vidéo. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas mal réfléchi à cette thématique-là pendant 10 ans, en étudiant d'autres jeux. Voilà. Et bah, récemment, je me suis dit, voilà, il y a peut-être matière à faire une autre proposition qui diffère de Keys of Game Space, qui était très métaphorique, en faisant quelque chose de plus frontal, qui explore d'autres thématiques, et en partant à nouveau cette fois d'un vécu, effectivement, personnel, puisqu'il y a 2 ans de ça, la mère de mon fils, dont j'étais séparé, a mis fin à ses jours. J'ai vécu tout ça de façon assez, même très, très directe et très dure. Et je me suis dit, mais... Il y a matière à faire un partage d'expérience autour de ça, parce que ça posait plein de questions. Bon, elle souffrait entre autres de bipolarité, et ça pose plein de questions à la fois sociales, sur la responsabilité individuelle, sur la responsabilité collective, sur le suivi des personnes, sur le rapport de l'enfance au décès, hein, puisque voilà, comment on parle d'un enfant de 5 ans, tout ça. Et sur aussi ce que le jeu vidéo peut apporter en termes de partage et de témoignage de vie, mais par rapport à des thématiques qui sont beaucoup plus transversales, parce que là, il y a le rapport à la perte d'un proche, le rapport à la maladie, le rapport à la résilience. Je me dis, ben voilà, il y a un sujet, et c'est ça que je vais essayer d'explorer par le jeu vidéo.
Je voulais parler de la réception du jeu dont vous parlez dans un des devlogs de Lie in My Heart, où vous montrez les images d'une jeune femme qui playteste le jeu. Et on la voit parler du jeu en disant c'est extrêmement fort, extrêmement émouvant. Et après, quelqu'un lui demande si elle l'achèterait pour autant. Et sa réaction, c'est de dire non. C'est parce que c'est un jeu qui n'est pas plaisant, on va dire. C'est pas quelque chose de... J'étais assez curieux de savoir quelle est la réflexion. Enfin, vous, vous le mettez en scène, vous assumez ce truc-là dans votre devlog. Donc c'est une façon de dire aussi que le jeu vidéo doit... Enfin, que les joueurs, en tout cas, doivent repenser aux contours de ce qu'est le jeu vidéo.
Ouais. Bah, disons que j'ai eu pas mal de réactions. Il y a une autre vidéo là où je mets plus en avant les réactions de joueurs qui sont plus, dans l'enthousiasme. Mais c'est vrai que je ne me suis pas interdit non plus de mettre des vidéos de joueurs qui ont réagi de façon... oui, c'était forcément mal à l'aise après, quoi. Mmh. Donc, il y a certains joueurs qui me disent bah, merci. Enfin, franchement, là, encore ce matin, je sors de l'Indie Cage et j'ai été présenter le jeu dans une session qui s'appelle Show and Tell. On présente pendant 2 heures un jeu. Et j'ai une joueuse qui venait exprès pour me voir, pour me dire bah, voilà, je voulais vous voir, merci. Merci pour le jeu parce que ça m'a touché, ça m'a marqué. Ce genre de réaction, je me dis justement, moi, quand j'ai fait le jeu là, je me suis dit. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens. Je ne sais même pas s'ils vont accrocher l'histoire. Je ne sais même pas s'ils vont ressentir des émotions. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai fait des playtests. J'ai fait de la bêta-test pour me dire bah, quand même comment ça va réagir. Est-ce que j'ai raison de faire certains choix ou pas. Et effectivement, la plupart des joueurs, ce qui me marque déjà sur la réception, c'est que quasiment tous me disent bah, « je m'y retrouve ». Je m'y retrouve parce que même si c'est une histoire particulière, bah, ça me fait penser à ma histoire à moi, ça me fait penser à des choses que j'ai vécues, ça me fait penser à des proches, ça me fait penser... Et je me dis, en fait, dans le jeu, mais on pourra en reparler, j'ai vraiment paramétré les choses de façon à ce que c'est une tension entre un témoignage, mais aussi la possibilité pour le joueur de faire des choix qui lui sont propres.
Oui, c'est la grande force du jeu, c'est que vous... Il y a la dimension biographique qui est quelque chose d'assez rare dans le jeu vidéo, mais vous laissez une place aux joueurs.
C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est payant, en fait. Parce que les retours que j'ai des joueurs, ça montre que... Et c'est une force, je pense, du jeu. C'est de permettre de transmettre à la fois une biographie des événements stables, tout en réfléchissant à la façon dont je peux quand même ouvrir les choses pour laisser une attitude au joueur de s'y projeter lui-même. On pourra en reparler sur la façon dont j'ai fait ça. Mais pour revenir justement sur cette joueuse-là qui m'a dit bah, « le jeu m'a marqué, elle n'était pas bien. » Après, elle m'a dit « mais moi, je ne l'achèterai pas. » Après, c'est moi, je reviens sur l'approche qui a été la mienne en faisant ce jeu. J'ai pas fait ce jeu dans une optique, par exemple, de jeux sérieux. On parle beaucoup des jeux sérieux, qui sont des jeux thérapeutiques ou des jeux pour la formation, etc. Généralement, c'est des jeux qui essayent de persuader d'un message préconçu et qui se veulent persuasifs, hein, vraiment. Moi, j'ai pas fait mon jeu pour être persuasif. C'est pour ça que j'appelle ça du jeu expressif. C'est mon jeu est là pour poser des questions, pour créer des émotions, pour interroger.
Oui, c'est moins un message que des questions.
Mais c'est au joueur à trouver dans son vécu aussi les réponses aux questions qui lui sont posées. Et du coup, moi, je l'ai fait dans une démarche... j'aime pas trop le terme, mais je pense que c'est ce qui transmet le mieux ce que j'ai voulu faire. C'est une démarche artistique, en fait. C'est de se dire, pour moi, l'art, c'est une façon de nous interroger sur le monde, sur nous-mêmes, sur autrui, tout en nous touchant émotionnellement. Et moi, il y a des œuvres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas le même si je n'avais pas découvert Kubrick, Lynch, Bowie, voilà, des trucs qui ont fait ce que je suis. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire un jeu dans cette perspective-là, toucher les gens, les interroger, mais toucher les gens, c'est quoi ? Moi, je pense que quand Bacon faisait ses peintures, il ne disait pas, moi, je veux faire un beau truc, quoi. Non, il disait, j'ai envie de m'exprimer, j'ai ce besoin-là, et moi, je le ressens comme ça, j'ai besoin de m'exprimer, mais je ne cherche pas à faire un jeu qui va être forcément... J'ai eu des critiques là-dessus, j'ai quelqu'un qui a été hyper virulent, un Américain, quand il a joué au jeu, il m'a dit, mais moi, je ne recommande pas ce jeu parce que ce n'est pas divertissant, ce n'est pas fun, ce n'est pas plaisant. Oui, mais justement, moi je considère que le jeu aujourd'hui, on peut essayer d'avoir d'autres connotations sur ce qu'est du jeu, en se disant, mais ça peut être perturbant aussi, ça peut faire des réactions. Là, forcément, ça ne va pas être pour tout le monde, et d'ailleurs, merci d'avoir fait l'avertissement en début d'émission, parce que c'est ça, oui, ce jeu-là, ça va vous amener à reconsidérer ce qu'on peut appeler du jeu. Et d'ailleurs, c'est ce que je marque sur la page Steam. Je dis, ça peut vous amener à reconsidérer ce qu'on appelle du jeu. Ça peut vous faire sortir des connotations habituellement liées au jeu. Oui, ça ne va pas forcément être fun. Mais en même temps, c'est toujours du jeu pour moi, d'une certaine façon, parce que ça permet de faire cet exercice des possibles, cette ouverture de choix qui caractérise le médium.
Peut-être qu'il faut préciser un petit peu la forme du jeu.
Oui.
Qui prend, donc c'est sous la forme d'un visual novel, à peu près.
Ouais, point and click visual novel.
Oui, voilà, c'est-à-dire un mix avec une histoire qui se déroule, qui commence par le drame. Et après qui rembobine ce qui s'est passé avant, longtemps avant, puis pas longtemps avant, jusqu'à la chronologie des événements.
Deux années précédentes, ça.
Ouais, c'est ça.
Et avec à certains moments donc des choix à faire en tant que joueur, on doit faire des répondre à des questions,
rapport à des problèmes urgents,
ou choisir des dialogues, tout simplement, plus classiquement, on va dire dans ce genre de jeu, et avec une spécificité quand même qui est réelle, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on va connaître le nombre de choix qui ont été faits en adéquation avec le réel, entre guillemets, en adéquation avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on va avoir sur 11 choix possibles, on saura si on a fait les mêmes choix que vous, combien de choix en commun on aura.
Oui, ce qu'il faut peut-être préciser là-dessus, c'est qu'effectivement, à la fin de chaque chapitre, on dit, ben, par exemple, il y avait 12 choix à faire dans ce chapitre, il y en a 6 que vous avez fait équivalent au réel. Mmh. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, quand on le fait la première fois, et ça, je ne spoil pas déjà pour dire... quand on le fait la première fois, on ne sait pas quels sont les choix qui ont été équivalents. Il y a un indice qui nous est donné à la toute fin, quand on a fait la première partie, on sait comment on peut les trouver, ces choix équivalents, mais la première fois qu'on le fait, on ne le sait pas. Mm. Et moi, je conseille vraiment aux éditeurs de le faire la première fois, mais comme ils le sentent, quoi. Et le but du jeu, ce n'est pas d'avoir 100% d'adéquation. Mm. C'est justement de se dire, j'ai pas fait les mêmes choix que lui, parfois ça me surprend, parfois ça me surprend pas, mais après peut-être que quand je le referai, j'aurai ce petit indice, je me mettrai à sa place maintenant que je l'ai vécu, pour essayer de comprendre quelle est sa logique à lui aussi. Et c'est ce que je disais, comment on développe l'empathie par le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop encore développé dans le jeu, c'est logique d'empathie avec autrui. Ça c'est une façon de créer de l'empathie par la rejouabilité en gros.
Je sais pas, c'était... Sur la forme, on a un peu... Enfin voilà, c'est vraiment... on précise aussi que c'est une expérience très resserrée. D'ailleurs, c'est indiqué dès le début du jeu. C'est une séance...
C'est une heure et demie
une heure et demie à faire d'un bloc, surtout la première fois. Alors c'est un avertissement que j'ai trouvé intéressant, moi, parce que, par exemple, la première fois où je l'ai lancé, j'ai arrêté à ce moment-là, parce que je savais que j'avais pas une session de jeu. Et donc, je l'ai repris le surlendemain pour y jouer en une fois. C'est un truc important comme ça, d'avoir une expérience de jeu d'un bloc.
Ouais, je crois, enfin, j'ai beaucoup réfléchi avant de mettre cet avertissement-là. Et je me dis, après tout, c'est comme dans un film, quoi. On va au ciné. Généralement, on ne va pas se lever de la salle pour se dire, là, j'ai pas le temps, je reprendrai le film à la moitié pour une autre séance, quoi. Et là, du coup, je me dis, il y a une sorte de cohérence émotionnelle, si on le fait d'un bloc, dans la façon dont on comprend les choses, dont on les vit. L'expérience est vraiment pensée comme ça, mais après, elle est aussi pensée avec pas mal de mécanismes de rejouabilité. Par exemple, j'ai été surpris sur Steam, j'ai le commentaire d'une femme qui était très émouvant, très fort. Elle me dit, moi je suis bipolaire aussi, ce jeu m'a énormément marqué, et elle m'a dit, je suis contente, j'ai réussi à trouver tout, à débloquer tous les achievements. Et il y avait des achievements, je pensais pas possible vraiment de les débloquer, et elle a épuisé le jeu pour pouvoir faire le tour, et elle a joué 8h30 au jeu. Même moi, j'aurais pas joué 8h30, mais c'est vraiment cette logique-là, de se dire, je vis une expérience, je la vis d'un bloc, et après, je peux y revenir dessus, parce qu'il y a, une forme de progression, de courbe dramatique qui évolue, même au niveau émotionnel, et si on l'a fait en plusieurs fois, c'est un peu dommage, parce qu'on perd cette continuité, voilà.
Il y a d'autres commentaires sur Steam, généralement tous positifs, il y en a un que j'ai bien aimé, c'est qui dit « On a cette impression de dialogue direct avec l'auteur de cette œuvre ». Est-ce que ça se comprend, ce genre de commentaire ? C'est-à-dire que c'est effectivement une œuvre autobiographique, mais c'est une œuvre qui aussi installe une sorte de recul, une sorte d'interactivité avec une histoire. Mais transformer cette expérience en dialogue avec l'auteur, j'ai trouvé que c'est un rapport qui se crée par rapport au créateur du jeu, par rapport à la situation, par rapport à...
Oui, bah, disons que je pense que le jeu alterne entre différentes séquences où il y a des moments où on va se projeter. On va être vraiment pris dans l'action. Et même, il y a des mécanismes à un moment de faut que je réagisse super vite. Parce que voilà, donc là, je suis dedans, je m'implique. Et il y a d'autres moments dans le jeu où, de façon surprenante, tout d'un coup, je ne vais pas spoiler à nouveau, mais c'est une séquence vraiment clé, où je m'adresse directement au joueur. Mmh. Je lui dis, quels sont les choix que tu vas faire là. Et là, il y a comme une distanciation. Là, je dis, là, le joueur, il va se dire, ah bah oui, mais c'est pas moi qui me prends pour le héros, puisque lui, il s'adresse à moi maintenant. Et il y a effectivement cette mise en implication ou en distanciation qui est intéressant, je pense, dans le jeu. Parce que c'est ce qui fait aussi une particularité du jeu, c'est qu'on peut être dans cet engagement et dans cette distanciation. Et on le voit très bien dans plein de jeux d'aventure où parfois on est dedans et parfois tout d'un coup le jeu ça va s'adresser à nous. Je reparlais pas plus tard qu'hier à mes étudiants de Maniac Mansion, donc un grand jeu des années 80, point and click, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit parfois dans le jeu les personnages qui font des apartés, qui regardent directement, qui brisent le quatrième mur, qui parlent au joueur pour l'impliquer. Et cet effet de « je brise le quatrième mur » pour faire une continuité entre le réel et l'univers fictionnel du jeu, c'est exactement ce que j'essaie de faire dans le jeu, de dire un jeu, c'est une ère. Y a un pédopsychiatre qui s'appelle Winnicott qui dit que le jeu, c'est une ère intermédiaire entre le réel et la fiction, entre le fantasme et la réalité. Et c'est ça, en fait. C'est comment le jeu, c'est un entre-deux, et comment on joue de cet entre-deux pour impliquer le joueur, quoi.
Et là, je trouve que le truc est d'autant plus intéressant, en tout cas, dans la mesure où c'est une œuvre biographique. D'habitude, une biographie, on nous explique quelque chose, on nous le lit, on nous le déroule. Là, non seulement on est acteur de cette chose-là en étant invité à confronter les choix qu'on ferait aux vôtres, mais en plus, vous posez dans cette scène-là la question du témoin, de la place du témoin dans sa propre œuvre, quoi.
Disons que c'est aussi l'idée de la façon dont on paramètre les choix pour le joueur. Très souvent, dans un jeu, on va avoir des réactions qui peuvent être des bifurcations, mais qui sont plus des réactions à des événements qui viennent à nous. Et voilà. Là, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que les choix sont aussi des choix moraux et en termes de valeurs. C'est-à-dire, je me dis, comment on peut paramétrer le jeu de façon à ce que je prends juste un exemple. Il y a une scène, c'est pas une grosse surprise, où on va expliquer le décès de la maman à l'enfant. Et moi, j'ai pas eu envie de contraindre le joueur dans ma vision du monde sur la façon dont on explique ça. Et dans les choix, il y a un choix qui est plutôt un choix athée et un choix qui est plutôt un choix de croyant pour expliquer le décès. Et là, c'est au joueur à faire ce choix. J'ai pas eu envie de le contraindre. Et par rapport à d'autres jeux biographiques, il y en a pas des masses, mais celui qui revient très souvent, c'est The Dragon Cancer. Mm-hmm. Et là, très clairement, dans The Dragon Cancer, l'auteur, à nouveau autobiographique, a décidé de contraindre la vision du joueur par rapport à ses propres croyances à lui. C'est un jeu très christique, The Dragon Cancer. Et après tout, pourquoi pas, c'est ce qui a permis à la personne d'aller de l'avant par rapport au drame qu'il a vécu. Mais moi, je trouvais que sur le plan éthique, ça pose pas mal de questions. Et moi, là, je me sentais mal, mais vraiment en tant que créateur, de me dire, je vais imposer, et c'est pas la seule séquence, mais je veux pas spoiler le jeu, mais je voulais pas imposer certains choix que j'ai fait dans le réel aux joueurs. Alors après, on peut pas créer tous les choix possibles. C'est pas possible. Un jeu, c'est toujours un ensemble de contraintes. Mais justement, les choix que j'ai voulu mettre en avant, c'est des choix qui sont posés à moi sans termes de réflexion quand j'ai vécu les événements. Donc des choix probables. J'ai pas inventé n'importe quoi en termes de fiction. J'aurais pu, c'était possible d'inventer des choix impossibles, enfin peu probables, mais je l'ai pas fait. Soit des choix qui moralement me semblaient refléter différents types de positionnement par rapport à des questionnements de vie, quoi.
On est quand même face à la mise en jeu d'une histoire personnelle dramatique, tragique, assez, assez forte. Même si là, on parle du jeu, et vu qu'on a cette possibilité de dialogue, moi, il y a quand même cette question qui m'est venue en tant que joueur, c'est à quel moment, quand on a vécu ça, est-ce qu'il y a un déclic, il y a un passage qui se dit il est possible de mettre ce passage de ma vie en jeu d'une certaine manière. Est-ce que, enfin, comment se passe ce processus en fait?
Bah, alors c'est la chose la plus difficile en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je vais mettre dans le jeu, et déjà à la fois pour la compréhension du joueur, pour vraiment lui partager l'expérience, quoi. Je veux dire, ne serait-ce que sur le plan narratif et scénaristique, quelles sont les informations dont il a besoin pour comprendre ce qui se joue là, quoi. Donc, il y a déjà ce prisme-là qui permet de faire un tri, hein. une histoire de compréhension tout simplement de l'intrigue. Tout simplement, en tout cas de compréhension de l'intrigue. Et après, il y a des questions plus qu'est-ce qui est intéressant à partager et pour faire vivre à la fois en termes d'émotion, en termes de réflexion sur les événements, ce que j'ai vécu. Et du coup, là vraiment, par rapport à la démarche que j'ai suivie, il y a une question d'honnêteté un peu intellectuelle. C'est-à-dire, bon, les gens qui vont jouer au jeu, ils vont... Peut-être voir, je ne suis pas forcément tendre avec moi-même dans le jeu. Il y a des choses qui sont assez dures, hein, sur les décisions qui ont été prises. Mais en même temps, je pense que c'est utile de mener cette réflexion-là pour se dire je ne vais pas cacher de choses. C'est ce que je disais, hein, je n'impose pas une morale. Hein, je ne suis pas moralisant. Je n'essaye pas de donner un point de vue qui serait unique pour dédouaner. Mais c'est plutôt de se dire quels sont les choix intéressants et qu'est-ce qui finalement... permet de complexifier aussi le discours. Hein, pas uniquement être sur un seul point de vue, mais se dire, quand on a ce genre de drame-là, forcément, il y a des questions de responsabilité de la société aussi. Hein, pourquoi ces personnes-là ne sont pas accompagnées comme elles auraient pu l'être? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Quels sont les itinéraires de vie qui ont marqué ce drame? Et donc, c'est aussi ça qui fait le choix. Puis après, c'est des choix créatifs. Hein. C'est quand je crée une œuvre, je prends des risques. Je me dis, là, je vais mettre ça et je vais voir comment les joueurs réagissent. Voilà, je pense qu'une des choses qui a vraiment guidé mes décisions créatives, c'est que je voulais pas tomber dans le voyeurisme. Je voulais pas me dire, le joueur, là, je vais lui faire voir ce qui s'est passé, et puis une sorte de pulsion, de voyeurisme.
J'étais curieux, justement, contrairement à votre premier jeu, vous utilisez pas du tout de symbolique.
Ouais,
vous êtes dans une représentation très crue, photographique. Comment, dans la forme, vous vous êtes fixé sur l'utilisation de la photo? Comment la retravailler pour pas être... À quel moment, c'est quoi le processus qui mène à ça?
Alors, disons que effectivement, la plupart des graphismes sont issus de photos de ma vie, même de couple. Mais néanmoins, c'est ce double langage sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictionnel. Et chaque photo, je l'ai retravaillée à la fois avec du dessin. Donc, il y a une couche par-dessus. Hein, on n'a pas accès directement à la photo, quoi. Il y a énormément de travail dessus sur du digital painting, du dessin. Donc, c'est ce qui fait...
Mais il y a cette couche de réel quand même.
Mais il y a cette couche de réel, ouais. C'est ça. Je ne voulais pas non plus tomber uniquement dans l'aspect bande dessinée, qui aurait pu quelque part justement rendre un effet plus métaphorique, distancié. Je voulais quand même avoir un effet de réel, mais je ne voulais pas non plus uniquement être dans du roman photo, quoi. Parce que là, du coup, ça fait vraiment voyeuriste. Et pour certaines séquences, il y a à la fois du jeu entre le réel et de la fiction. D'ailleurs, dans la première séquence, petit indice, il y a certains personnages qu'on rencontre qui sont en fait des personnages d'inspiration fictionnelle. C'est des références...
Tirés du cinéma,
et ça donne une connotation à certaines scènes. Et d'ailleurs, ça ancre le jeu dans une certaine tradition en France, dans les jeux d'aventure français des années 80. Très souvent, on mobilisait des caricatures de personnages réels. Il y avait un jeu d'Ubisoft, je crois, qui s'appelait La Chose de Grottenbourg, un truc comme ça, où il y avait une caricature de Gainsbourg, par exemple. Et donc, je me suis dit, je vais jouer sur cette ambivalence-là, à la fois pour donner une connotation à certaines séquences, mais il y a une séquence dans le jeu qui est très, très métaphorique. Très, très, très métaphorique. Je ne vais pas dire de quoi elle parle, parce que c'est vraiment une sorte de bascule dans l'histoire. Mais cette séquence-là, je me suis dit, typiquement, si je la traite de façon photographique ou directe, là, on va tomber dans le voyeurisme. Là, on va tomber dans autre chose. Et je me suis dit, non, mais là, j'ai envie de mettre de la poésie. Justement, parce que c'est la scène, ça pourrait être une scène très crue. Et cette scène crue, là, maintenant, je vais la traiter de façon poétique. Et en plus, avec des références, à la poésie, justement, on parle des fleurs du mal, on parle de... Donc, il y a une référence à Baudelaire, etc. Et ça permet de me dire, bah, tiens, ces séquences qui typiquement pourraient être dans le voyeurisme, bah, je vais les traiter autrement. Et c'est ça qui crée le rythme du jeu. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de questions sur cette scène-là. Je me dis, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que les joueurs ne vont pas être sortis du jeu parce qu'on passe dans un autre registre? Et de façon très surprenante, les joueurs m'ont dit, mais non, mais ça m'a d'autant plus impliqué.
On va, d'ailleurs, il n'y a pas que l'univers graphique, c'est un jeu, donc il y a aussi un univers sonore. On va écouter un petit extrait de la bande originale de Lie in My Heart. So you thought you shouldn't stay. Est-ce qu'on peut en savoir plus d'ailleurs sur cet univers sonore, ces choix?
Alors en fait, on va dire 90% de la musique a été faite par un ami qui s'appelle David Dupuis, que d'ailleurs je connais depuis le lycée. La plupart des personnes qui ont collaboré au jeu sont des gens qui me suivent dans ma vie depuis des décennies, en gros. Ça, je pourrais en reparler. L'éditeur aussi, c'est un ami que je connais depuis 15 ans, qui travaille en partie dans les jeux vidéo. Et voilà, donc c'est des gens qui ont vécu aussi ma vie. Mes drames de vie et mes bonheurs de vie depuis des années. Et donc le musicien, on a beaucoup travaillé sur les références qu'on pouvait mobiliser. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, justement, a décidé de sortir de ce que pourrait être du cliché musical, quoi, genre avec des violons, des trucs comme ça, pour être davantage dans de l'expérimentation sonore, quelque chose de très brut. Bon, la musique qu'on vient d'entendre est une musique qui est plus un moment un peu particulier dans le jeu, mais généralement la musique de David est beaucoup plus expérimentale et voire dissonante. Parfois on est plus dans de l'atmosphérique, et je pense que justement ça permettait de rendre davantage cet aspect un peu rugueux d'accès au réel. Et le morceau qu'on vient d'écouter là, c'est un morceau que j'ai composé en fait, parce que je fais la guitare par ailleurs, et donc il y a quelques morceaux de guitare dans le jeu que j'ai souhaité faire. Et ce morceau là, c'est vraiment le morceau hommage à la maman de mon fils, et que j'ai composé en pensant à elle. Et donc c'est aussi une façon de, parce que dans le jeu il y a aussi cette question de la mémoire. Il y a vraiment toute une réflexion sur comment, c'est quoi de continuer à vivre au-delà de la mort. Et moi, je crois beaucoup que la mémoire permet de continuer à donner, donne une continuité à l'existence de quelqu'un. Et finalement, par ce jeu, moi, ce que je souhaitais faire, c'était transmettre une mémoire dans les mémoires des joueurs, par la mémoire vidéoludique. Il y a vraiment cette tripartition. C'est-à-dire, il y a la mémoire de quelqu'un. Comment je fais que cette mémoire-là s'inscrive aussi dans les mémoires de quelqu'un. Et quand on s'intéresse un peu à la façon dont fonctionne la mémoire, un souvenir, c'est toujours réapproprié. Il n'y a jamais d'accès au réel direct par un souvenir. C'est toujours une façon à soi de se faire un souvenir. Et un jeu, c'est parfait pour ça, pour se faire sa propre vision des choses. Et donc, il y a une mémoire de quelqu'un qui va devenir la mémoire de quelqu'un d'autre, par une mémoire aussi, parce qu'un jeu, c'est une mémoire déposée. On parle de mémoire morte. C'est une mémoire morte qui devient une mémoire vive par l'appropriation que pourront en faire les joueurs.
On parlait tout à l'heure, avant d'écouter cet extrait, d'autres jeux autobiographiques, et je voudrais revenir quand même sur The Dragon Cancer, dont on a parlé dans Silence on Joue. C'est un jeu qui est sorti tout début 2016. On l'a dit, c'était donc l'histoire de ses parents dont l'enfant est atteint d'un cancer et meurt. Et donc c'est tout le processus, les années, parce que ça a duré longtemps, et donc c'est un récit. Et en fait, du coup, parce qu'en préparant cette émission, je me suis réécouté ce qu'on avait dit dans Silence on Joue de The Dragon Cancer, et c'est assez marrant parce que quand je parle, il y avait aussi Erwan Eguinen des Inrock qui était là, qui avait joué au jeu. Je n'avais pas du tout envie de lancer The Dragon Cancer. Je n'avais pas forcément envie d'être confronté à un sujet aussi grave, aussi tragique. Et c'est vrai que on a déjà posé un peu cette question tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui on est habitué à ce qu'un jeu donne envie. On est habitué à ce qu'un jeu attire, accroche le joueur.
Et c'est vrai que qu'un jeu soit un jeu, en fait.
Qu'un jeu soit fun, soit... Et puis surtout, qu'il donne envie. Enfin, qu'il faut avoir envie d'appuyer, de double-cliquer sur l'icône ou d'insérer le disque ou tout ça, de se lancer dans le jeu. Et c'est vrai qu'il y a ce moment-là où on propose quelque chose qui ne fait pas envie. Parce qu'on sait aussi que le jeu vidéo... Moi, je me rappelle encore de mes sentiments quand je lançais The Dragon Cancer et quand j'ai aussi lancé Lie in My Heart, c'est que je connais la puissance du jeu. Je connais l'aspect immersif d'un jeu, même d'un visual novel, même sans être dans le photoréalisme, on est dans quelque chose d'immersif. Donc on sait qu'on va être immergé, on va être confronté à quelque chose de dramatique, à quelque chose de tragique. Ça fait partie de la réflexion, je suppose. Ça fait partie de...
Ah ouais, mais complètement. En fait, quand j'ai commencé à développer le concept de jeu expressif, bon, j'ai différents points de mes recherches. Mmh. Un autre point de ma recherche, c'est ce que j'appelle les processus de ludicisation. Bon, c'est un truc assez particulier, conceptuel. Mais c'est là-dessus que j'ai fait ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être professeur des universités et de diriger des doctorants. Mmh. Je vais vraiment faire mémoire là-dessus. Et ce que j'appelle la ludicisation, c'est la façon dont un objet en vient à être considéré comme un jeu. Et quels sont les processus, les facteurs, comment on analyse ça? Et il faut savoir que tous les objets qu'on appelle aujourd'hui des jeux passent par des processus de ludicisation, c'est-à-dire même ce qu'on appelle aujourd'hui un jeu vidéo, l'informatique à la base, c'était pas vu comme un objet ludique, même dans les premiers centres de recherche où il y avait des supercalculateurs, on en a fait des objets ludiques. Donc comment on rend quelque chose comment on fait de quelque chose un jeu. Et là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de représentations culturelles et sociales qui jouent. Tout le monde n'a pas les mêmes envies de jeu. Et qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de jouer? Et donc, le jeu est très connoté culturellement. Et souvent, moi, je fais une expérience avec mes étudiants. Je leur dis, voilà, demain, vous êtes game designer. Vous devez faire un jeu pour une petite fille chinoise de 8 à 12 ans. Qu'est-ce que vous faites comme jeu? Et là, qu'est-ce que j'en sais, moi, que la petite fille chinoise de 8 à 12 ans, j'ai envie de jouer. Et souvent, je leur dis même, mais si vous faites un jeu, ça se trouve, vous allez reproduire vos propres stéréotypes de ce qu'est le jeu en Chine, plus que ce qu'elle a vraiment envie de jouer. Et donc, il y a cette réflexion-là. Et c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est très normative sur les connotations qu'elle confère au jeu. Ben, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, c'est une industrie du fun, c'est une industrie du divertissement, c'est une industrie de certains types d'émotions.
Abordée par des genres et
voilà,
des définitions. Ouais.
Et donc, comment on fait pour en sortir et pour proposer autre chose? Et du coup, moi, quand j'ai fait Keys of a Game Space, c'était vraiment une réflexion que j'avais. Je me dis, comment je vais aborder cette thématique-là dans ce qu'on appelle un jeu, mais les gens, ça va les sortir direct. Et donc, dans Keys of a Game Space, en fait, la thématique s'immisce progressivement et en plus de façon métaphorique. Donc c'était vraiment l'idée d'y aller pas à pas pour faire évoluer les représentations. Et souvent, ce que je me dis, c'est que s'il y a un jeu, on se dit, je vois ça comme un jeu, je vais le lancer comme un jeu. Et petit à petit, il y a des éléments qui vont me refaire considérer ça, qui vont me faire dire, mais est-ce vraiment un jeu? Et si je l'accepte, j'ai contribué à faire changer les représentations du jeu. Donc c'était un peu la réflexion que j'avais. Et là, pour Lie in My Heart, je me suis dit, en 10 ans à peu près, il y a des jeux qui ont participé un peu à changer ça, qui aujourd'hui se permettent de parler de problématiques plus lourdes. T'as Dragon Cancer, mais c'est loin d'être le seul. Qui parlent en tout cas de sujets sensibles, mais la plupart font comme ça. C'est-à-dire, ils accompagnent le joueur progressivement vers la découverte de l'intrigue, et ils le font de façon métaphorique, ou en tout cas, par exemple, un autre jeu très fort là-dessus, c'est Gone Home. Gone Home, il a été vendu comme un jeu d'horreur. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est autre chose.
Il débute comme un jeu d'horreur.
Ah, il débute comme un jeu d'horreur. D'ailleurs, si on regarde les trailers d'époque, il joue vachement avec ça. Il met même des images qu'il n'y a pas dans le jeu final pour nous faire croire que c'est un jeu d'horreur. C'était très malin. Je me suis dit, mais oui, quelque part, il y a de ça. Il y a de comment je fais accepter un jeu différent. Alors je me suis dit, moi, ma prise de risque là, parce que quand on veut faire une création, il y a toujours une part de prise de risque. Moi là, je me suis dit, ma prise de risque, c'est que je vais y aller franco. On oublie la métaphore, on oublie les connotations qui peuvent être liées au jeu habituellement, et là je vais directement y aller en me disant, Ça peut être du jeu, mais ça peut être du jeu qui va faire ressurgir chez vous des émotions ou des choses qui ne sont pas forcément ce que vous liez habituellement au jeu. Et le pari, c'est de me dire, oui, mais si ça va être ensuite accepté comme une expérience ludique, ça va contribuer à faire changer ce qu'on peut attendre du jeu.
Mais complètement, et je voulais continuer juste pour finir sur The Dragon Cancer. En fait, j'ai été même étonné moi-même en réécoutant l'émission que... J'avais pas aimé le jeu. J'avais expliqué pourquoi j'avais pas aimé, parce que notamment la sur-symbolique permanente, la métaphore permanente. C'est vrai que The Dragon Cancer est quasiment un jeu quasiment uniquement métaphorique, avec les scènes classiques où si on est en dépression, et ben on se noie au fond d'un lac. Enfin, ce genre d'image un peu récurrente. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de l'expérience The Dragon Cancer, c'est un peu pesant. En plus avec l'apparition des croyances et ce genre de choses. Et en fait, j'avais cité, par exemple, dans The Dragon Cancer, pour moi, il y a une scène qui est majeure et qui est justement non métaphorique. C'est-à-dire que c'est une scène qui est très dure, qui se passe dans une pièce avec deux médecins et les deux parents. Et c'est là où les parents apprennent que le traitement de l'enfant ne fonctionne pas. Et donc, il y a un dialogue qui se crée, qui est raconté. Et en fait, on peut refaire le dialogue, la scène autant de fois qu'on veut, en changeant de perspective, en changeant de personnage, avec la voix off de ce que pense la personne. Et là, on revient dans le réel, on a un effet de réel. Et c'est vrai que moi, dans Lie in My Heart, c'est quelque chose... Alors j'ai dit, j'avais pas envie, là non plus, de lancer le jeu, mais d'être confronté à ce choix d'être dans la réalité tout de suite, on se met à trouver vraiment... fascinant le fait même d'avoir à se poser ces questions, parce que c'est toujours quelque chose qu'on s'imagine on, par l'empathie, si on a des proches, si on a même dans l'actualité des gens on voit qui ont été confrontés à ces situations-là, on s'imagine toujours par les neurones miroirs, par les effets miroirs, qu'est-ce que je ferais à la place de l'autre. Et là, de se retrouver à cette place-là, mais sans filtre, sans le filtre de la métaphore, c'est une expérience assez incroyable qui remue, qui fait se poser des questions et qui réussit vraiment à toucher là où on pensait que le jeu vidéo ne pouvait pas vraiment toucher, en fait.
Je pense que dans le jeu, il y a vraiment cette idée de « je fais comme si ». De toute façon, moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Jouer, c'est faire comme si, en grande partie. Mais c'est faire comme si, tout en ayant une action sur le réel. Hein. Jouer un jeu, c'est pas regarder un film. Hein. Quand on regarde un film aussi, on fait comme si. D'ailleurs, le type qui bouffe tout d'un coup des nachos à côté de nous et qui nous sort du film, on se dit, on sort de cette posture de faire comme si. Dans le jeu, il y a aussi ce faire comme si. Mais en même temps... Je fais plus parce que j'agis, et ce que je dis souvent, c'est un philosophe du jeu qui s'appelle Jean Corieux qui dit ça, jouer c'est aussi faire l'exercice des possibles. Hein. Et Winnicott, je parlais de Winnicott il dit jouer c'est de l'imaginaire en acte. Et je trouve que là il y a vraiment une piste à explorer par rapport au partage de vécu d'autrui. Et après tout, quand on regarde... Quand on se raconte des histoires, mais c'est une des fonctions principales de la narration, quoi, de se mettre à la place d'autrui, de vivre par l'entremise de l'art, de la représentation, d'autres vécus. C'est pour ça aussi qu'on aime se raconter des histoires, ou même si elles nous plaisent pas, même si elles nous font peur, même si elles nous mettent mal à l'aise, mais parce qu'on en sort grandi. C'est ce que je disais, moi, il y a des œuvres artistiques qui m'ont changé, qui ont fait ce que je suis, et je cherche aussi ça. Et du coup, le jeu peut apporter ça, mais d'une autre façon. Et il y a très peu de réflexions finalement qui se mènent là-dessus, mais il y a toute une tradition, dans la psychiatrie, sur l'analyse du jeu, qui peuvent nous fournir des pistes pour explorer ce lien. Et pour tout dire, moi, dans Lie in My Heart, il y a une approche qui a été très forte pour nourrir ma réflexion, qui s'appelle l'histoire contrefactuelle. C'est un pan d'approche scientifique de l'histoire où les historiens se permettent d'inventer des possibles probables dans des situations, genre qu'est-ce qui serait passé si Napoléon n'avait pas fait sa campagne en Russie, voilà, bon. Et ce qui fait la scientificité de l'approche de l'histoire contrefactuelle, c'est qu'on se permet de faire des uchronies, mais qui sont des uchronies probables. Et surtout, la recommandation méthodologique pour en fonder la scientificité, c'est de dire, mais je vais comparer cette uchronie avec ce qui s'est passé dans le réel. Et je vais voir comment ça fait sens. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué dans le jeu, en fait. Donc c'est une approche d'histoire contrefactuelle, mais appliquée au domaine ludique. Et, et, Et la façon dont ça peut faire sens peut éclairer des mécanismes de causalité. C'est-à-dire, bah là, dans La In My Heart, on se pose la question, mais qu'est-ce qui a amené ça? Est-ce que c'était déterminé? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Et là, il y a deux réponses, et qui sont toutes les deux aussi dramatiques, c'est, oui, j'aurais pu faire quelque chose, mais dans ce cas, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et ça, c'est dramatique, parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Ou bien on peut se dire aussi, c'est une autre réponse, hein, c'est, bah non, c'était déterminé, quand on regarde un peu la situation, on se rend compte que sur le plan de la causalité, avec une approche d'historien, ils font ça, voilà, quels sont les mécanismes de causalité qui ont amené ça? Bah, tout était là pour que ça en arrive là. Et moi, j'ai pas envie d'apporter de réponse à ça. J'ai pas envie de dire, bah, il y avait, on n'a rien pu faire, ou on aurait pu faire quelque chose. Et justement, le jeu permet de réfléchir à ça, de façon même quasi philosophique, hein, mais de façon aussi très, comme tu le disais, très, très pragmatique, très crue, en me confrontant au réel, je réfléchis à ça. Et dans la vie de tous les jours, quand on fait des choix, on est dans ces choix. On n'a pas conscience de ce qui va arriver. On ne regarde pas avec le regard extérieur bah, tous les mécanismes de causalité. Quand on vit une situation, on est face au possible et on en souffre parfois, ou ça nous rend joyeux, ou on se dit, bah, tiens, j'ai des possibles qui s'offrent à moi. Mais on est dans plein de dilemmes, mais tout le temps. Et c'est ces dilemmes-là qui sont riches. Et je trouve que mettre quelqu'un à la place d'autrui dans le jeu, ça permet de revivre ces dilemmes en direct et c'est preuve de réflexion et d'émotion.
J'étais curieux, vous avez parlé tout à l'heure de bande dessinée. Moi, quand je vous ai contacté, j'avais déjà en tête l'idée de... Enfin, je voyais le jeu comme, comme l'association est apparue dans la bande dessinée, en se posant en opposition avec une bande dessinée mainstream.
L'association pour les éditeurs, c'est pour les auditeurs, c'est on va dire
la grande maison indépendante.
Voilà, la grande maison indépendante française qui a explosé au milieu des années 90.
Des années 90, qui a légitimé la forme autobiographique, une écriture par le rêve, plein de choses comme ça. Et là, je voyais dans votre jeu et au-delà dans le jeu expressif un peu le même type d'élargissement des possibles par rapport à ce qu'offrait le marché de la bande dessinée à l'époque, qui était surtout de l'aventure et des récits pour enfants.
Bah moi, dans mes réflexions, en fait, très clairement, le roman graphique, ça a nourri, enfin, ce qu'on appelle le roman graphique aujourd'hui, ça a nourri mon approche de ce que pourrait être le jeu vidéo en étant expressif, quoi. C'est-à-dire, bah, moi, voilà, j'ai découvert Maos, j'ai découvert Persepolis, j'ai découvert Harvey Pekar qui a fait American Splendor, et je voulais vraiment parler d'Harvey Pekar parce que lui, son truc, c'était que bah, il faisait de l'underground, hein, de la BD underground, c'était un gros fan de comics hein, aux États-Unis, et il s'est dit un jour, c'est son credo, il dit « Ordinary life is a pretty complex stuff ». La vie ordinaire, c'est un truc assez complexe. Et il se disait « Mais pourquoi dans les comics, on ne parle pas du réel? Pourquoi on ne parle pas de mes problèmes de fin de mois? Pourquoi on ne parle pas de mes problèmes de relations sexuelles? Pourquoi on ne parle pas de mes désillusions amoureuses ?» Et il a fait une bande dessinée où il a demandé à ses potes, Crumb, hein, voilà, tous les mecs de l'underground américaine de la bande dessinée, de parler de ses problèmes de vie quotidienne. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est fort, c'est grand, quoi, ça ouvre des possibles. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, dans les jeux vidéo, on en est encore un peu à ce stade dans les années 60, 70, dans la BD, où on n'a pas les lieux de légitimation, de mise en visibilité institutionnelle pour des œuvres qui peuvent être un peu à contre-courant et underground, mais qui en même temps permettraient d'ouvrir, parce que c'est ça l'objectif aussi, hein, c'est d'ouvrir les possibles créatifs et expressifs au médium. Et alors, là où c'est plus difficile, c'est que la bande dessinée, c'est pas non plus jeu vidéo en termes de logique économique et industrielle. D'ailleurs, et puis le jeu vidéo, c'est une industrie qui est globalisée, c'est des super productions pour les AAA, et puis on a des logiques d'internationalisation, mais très, très, très fortes, qui sont normatives. Ça, il faut bien avoir confiance. On parlait de l'association. L'association, ils vendent leur truc, leur BD sur le territoire français. Ils peuvent avoir un amortissement en se constituant des marchés de niche sur un territoire local. Et moi, j'ai très bien vu aussi sur l'histoire du jeu d'aventure en France. on avait aussi des émergences de formes et de contenus alternatifs, parce qu'on avait des jeux qui étaient faits par des Français pour des Français sur des territoires très localisés. Aujourd'hui, je veux faire un jeu. Là, par exemple, mon jeu, il est sur Steam. Steam, c'est une plateforme, mais c'est déjà la globalisation directe, quoi. Et pourquoi je dis que ça a un enjeu, même si je peux me dire, ouais, mais je peux faire un jeu sur Steam, mais que je fais que pour des Français, après tout, why not? Oui, mais sur Steam, il y a 10 000 jeux qui sortent par an cette année. Faut voir que sur Steam, depuis que ça existe, je crois que c'est 2003-2004, en 14 ans, il y a eu en gros 15 ou 20 000 jeux qui sont faits. Et depuis 2 ans, il va y avoir 30 000 jeux. C'est-à-dire, en un an et demi, deux ans, trois ans, en gros, on a eu l'équivalent de 13 ans de production. Donc, on est dans des logiques, mais de surcharge et de parasitage de la production qui est énorme. Et du coup, comment on se sort de ce lot-là? Parce que, par exemple, on parlait de la bande dessinée, de qu'est-ce qui fait vendre de la bande dessinée? Qu'est-ce qui met... Moi, j'ai des amis qui sont écrivains aussi à succès, etc. Ils ont sorti des thrillers, j'ai un ami qui est Goncourt, etc. Comment on vend un livre auprès du grand public? C'est pas compliqué. On a des lieux d'exposition des livres, on met un rayonnage du même bouquin, et ça attire l'attention tout de suite. Comment j'arrive à être sur l'avant-page de Steam? C'est des questions d'algorithme et de nombre de wishlists. Il faut avoir minimum 50 000 wishlists pour être mis en avant. Comment j'obtiens 50 000 wishlists avant que mon jeu sorte sur Steam? Ça pose plein de questions, quoi.
La question complémentaire, c'est est-ce que le jeu expressif est condamné à être quelque chose de niche, d'alternatif? Ou est-ce que cette vision d'auteur peut aussi s'épanouir dans un modèle économique plus large ou...
Moi, je pense qu'après, là, c'est une question qui renvoie plus largement sur les questions de la marge et du marché dominant dans les industries culturelles. C'est-à-dire, moi déjà, pour revenir juste sur le jeu, mon jeu en tant que tel, par exemple, moi, le seul truc que j'espère, c'est que ça trouve un public. Un public, ça veut dire, je ne sais pas, qu'il y ait quelques centaines de personnes, peut-être même un peu plus, qui jouent, que ça leur apporte. Que ça les fasse réfléchir, que ça puisse les marquer, en tout cas que ça apporte quelque chose, je ne demande pas plus. Je pense que de toute façon, dans toutes les industries culturelles, on a des histoires de marge et des histoires de réappropriation du modèle dominant. Ça, on le voit très bien. Et je me dis que ces trucs qui sont à la marge, les jeux qui sont plus expérimentaux, d'une façon ou d'une autre, ça va être approprié par la grosse industrie qui va peut-être en prendre quelques bouts, et puis qui tout d'un coup va en faire autre chose. Ça ne sera pas tout à fait le truc underground initial, mais peut-être qu'on aura des éléments qui vont infuser dans les plus grosses productions. Après, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Moi, par exemple, je suis un fan, mais absolu, par exemple, de la trilogie des Mass Effect, parce que précisément, il y a des choses qui effleurent, qu'on peut effleurer justement dans Mass Bien Effect, qui sont de thématiques très sensibles, qui sont le rapport à l'altérité, le rapport... qui sont hyper intéressantes, mais c'est pas la même type d'expérimentation qu'on peut mener, parce que quand on fait un Mass Effect, qu'on met des millions sur la table, il faut amortir un minimum, et pour ça, on peut pas prendre des risques très gros en faisant ça, quoi.
J'ai quand même une autre question sur un peu aussi sur cet environnement du jeu vidéo. Ces dernières années, on va dire, il y a une créatrice de jeu qui avait fait un jeu qui s'appelle Depression Quest, donc aussi dans ces questions personnelles, qui s'appelle Zoe Quinn. On a bien vu aussi que il y avait effectivement une sorte de normativité au niveau des éditeurs et au niveau de la création de jeux vidéo, mais il y a aussi de la normativité du côté des joueurs et de ces communautés qui peuvent être toxiques, agressives, dès qu'on propose autre chose, dès qu'on a une autre approche du jeu vidéo. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, un souci, ou est-ce que c'est quelque chose à la marge?
Alors ça peut être un gros souci, dans le sens où quand on fait un jeu vidéo, et si c'est notre gagne-pain et qu'on en dépend, ça peut très vite ruiner une carrière et une vie, du coup. Moi, j'ai eu quelques réactions très, très virulentes sur le jeu, sur un point précis. En fait, le type qui a fait la réaction a bloqué sur un point du jeu. Je ne peux pas le dire lequel, parce que je spoilerais vraiment le jeu. Mais je pense qu'il avait une vision de vie très conservatrice sur certains points, question de relation de couple. Et du coup, et je peux le comprendre, tout à fait, mais ça, je m'y attendais, hein, que les gens allaient réagir là-dessus et être jugés là-dessus, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il fait l'amalgame entre l'œuvre et puis l'auteur derrière. Hein, il peut m'attaquer, il saurait où j'habite, il viendrait je sais pas, mais ça pose des vraies questions, quoi. Et, mais du coup, moi, je suis dans une position où j'ai pu faire ça. Parce qu'aussi, bah, moi je suis professeur des universités, ma vie n'en dépend pas du succès du jeu. Donc j'ai pu faire ça. Hein. J'ai pu faire ça en me disant, ben voilà, il réussissait bien, puis de toute façon, c'est pas la vente que je vise du tout. Tout ce que je veux, c'est comme j'ai dit, il trouve un public, et puis je fais une proposition, et je peux aussi faire cette proposition-là, parce que je suis dans ce contexte-là. Après, bon, voilà, ce contexte, je l'ai construit aussi, hein. C'était des paris de vie, hein. Ça n'a pas été facile de pouvoir avoir cette position, surtout en parlant de jeux vidéo à l'université. Hein. Bon, je ne vais pas faire l'article là-dessus, mais c'est pas un milieu qui est forcément favorable non plus à cet objet. Et bon, ça évolue, mais néanmoins, ça n'a pas été facile. Et néanmoins, si on est un auteur de jeu dont c'est le gagne-pain, bah forcément, il y a de la normativité. Parce qu'on se dit, moi, c'est aussi des questions que je me suis posées. Je me suis dit, mais si je parle de ça dans le jeu, est-ce que ça ne va pas tout de suite, je ne vais pas avoir des volets de bois vert des joueurs. Et du coup, c'est l'effet Steam. L'effet Steam, je veux dire, il y a surtout sur des petits jeux comme ça. Il y a un mec qui supporte pas le jeu pour X ou Y raison, qui ramène ses copains à faire 10 évaluations négatives sur le jeu. Mais le jeu, c'est bon, il disparaît des radars, il n'y a plus personne qui veut en entendre parler. Puis voilà, il suffit de... Les joueurs... j'avais vu une vidéo là-dessus, il y avait un créateur de jeux indés qui regardait comment les acheteurs de jeux indés évaluer les jeux qu'ils avaient achetés. Et on pourrait se dire, bah, les joueurs de jeux indés, c'est ceux qui sont les plus ouverts, etc. Bon, déjà, la plupart des joueurs de jeux indés, c'est des gens qui ont plus de 100 jeux dans leur bibliothèque Steam. Donc c'est déjà une part hyper infime des joueurs. Et même ces joueurs-là, comment ils évaluent le jeu? Ils regardent 10 secondes les écrans de screenshot, ils regardent les avis des joueurs, et ça s'arrête là. C'est une évaluation de 20 secondes. Et donc, ça peut être hyper normatif, parce que Steam est fait comme ça. Le poids de l'évaluation des joueurs. Et quand on propose quelque chose qui est vraiment différent, bah on peut se dire, je ne sais pas, moi je me mets souvent à la place de Kubrick, vraiment j'adore Kubrick, je me dis quand il a fait un film comme Lolita, il aurait été sur Steam, il serait mangé des reviews assassines, et du coup, si ça se trouve, son film, il n'aurait même pas pu être vu, parce que le spectateur qui aurait été sur une plateforme, on imagine, équivalente, qui aurait vu direct la review, boum, film amoral, immoral, de mauvaise qualité, bon, bah, c'est bon, je passe à autre chose. Et donc, ça a un effet hyper normatif. Et les concepteurs doivent jouer aussi de ça, quand leur vie en dépende. Dans le jeu indé, il faut savoir que les producteurs, la plupart du temps, donnent les marges sur le score métacritique. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que si on fait une expérimentation, on se dit, mais moi je m'en fous que mon jeu plaise ou pas, je veux faire une expérimentation perturbante qui amène d'autres émotions, etc. Bah oui, mais sur Metacritic, du coup, vu que c'est un agrégateur de notes, et puis même la profession des journalistes, par exemple, c'est aussi, si on prend un peu le profil socio-professionnel, ça ne représente pas nécessairement tous les joueurs, quoi. Bon, ben voilà, on est dans des processus normatifs et il faut jouer de ça. Il faut trouver des alternatives, au point où moi, ben, un concepteur que j'admire beaucoup, mais lui aussi, il a un point de vue très particulier là-dessus, c'est Paolo Pedercini, il me semble, qui a un collectif qui s'appelle Mole Industria, qui fait ce qu'il appelle des jeux radicaux. Et lui,
créateur italien, très politisé.
C'est très politisé, ces jeux, c'est hyper cash, quoi. Voilà, mais lui, il me l'a très bien dit, parce que j'avais eu quelques échanges avec lui, il me dit, mais moi, je ne fais pas partie de l'industrie du jeu vidéo. Moi, je suis plus dans une démarche de collectif d'artistes. Et quelque part, je me dis, mais c'est logique, parce que quand on est dans une démarche davantage artistique, c'est un peu la démarche qui était derrière là, In My Heart, et qui est derrière celle de Paolo Pedercini, etc. C'est quand je crée une œuvre...
La question de la réception se pose pas, en fait.
Je la crée, puis après l'œuvre elle a sa vie, et je verrai bien comment ça réagit. Et après, ça peut être le drame d'une vie. Bah oui, il y a des Lovecraft qui n'ont jamais connu ce qu'est devenu leur œuvre. Bah voilà, mais quelque part, quand on veut tenter ça, il faut savoir ce à quoi on se coltine, quoi. Après, on peut essayer d'avoir des approches qui sont un peu mixtes. Mais c'est toute la difficulté. Et puis c'est aussi une question de contexte qui est favorable ou pas. Hein.
Après, je trouve ça un peu triste d'avoir à se disqualifier, entre guillemets, en tant que créateur de jeu, pour se requalifier en tant qu'artiste. C'est comme si le jeu ne pouvait pas accueillir de l'art. Enfin,
C'est pas tout à fait ça. Je pense qu'on peut très bien avoir une démarche artistique tout en rentrant dans une logique de commercialisation et d'industrialisation. Ça pose toutes ces questions des industries culturelles. Exactement. C'est de se dire... je peux avoir une démarche qui va essayer de tenter des trucs, mais en ayant conscience de toutes les contraintes qui pèsent sur moi. Voilà, je parlais de Kubrick. Kubrick, lui, c'était quand même le type qui a réussi à avoir carte blanche de la Warner, il me semble. Les types lui disaient, bon, ben, c'est bon, tu fais ton truc, toi, tu vas être particulier. Et c'était le seul, c'était quasiment le seul. Je veux dire, même Orson Welles, à son grand âme, il n'a pas eu le director's cut sur ce qu'il voulait faire. Il a eu Citizen Kane et après, il a été emmerdé toute sa vie par les types qui étaient au-dessus, quoi. Mais c'est le propre des industries culturelles, donc c'est ce qui fait aussi la richesse de la démarche. Mais après, on peut très bien se dire, mais je suis dans une autre démarche, je suis dans une démarche vraiment, j'y vais full artiste, et je verrai bien. C'est une question de mixte entre les deux. Et moi, je dis juste que ma démarche, je suis pas chez Ubi, j'ai d'autres logiques qui sont derrière. Ça n'a aucun jugement de valeur. Ça me permet juste de tenter d'autres trucs. Et après, l'œuvre, elle vivra sa vie. De toute façon, je sais que j'aurai jamais l'écho d'une expérimentation qui sort de chez Ubisoft, quoi, parce qu'eux, ils ont la machine marketing derrière, quoi.
J'étais assez curieux de la réception de votre côté, parce que vous êtes à la fois créateur et, à ce titre, j'imagine, très impliqué dans... Enfin, j'imagine qu'il y a un sentiment de livrer son bébé et d'être curieux de voir comment les joueurs regardent le truc. Et en même temps, vous êtes scientifique, et du coup, vous avez... Ça suppose un regard critique et au moins une distance par rapport à ça.
Disons que moi, je suis dans ce qu'on appelle une démarche de recherche-création. C'est-à-dire, par exemple, le concept de jeu expressif, d'abord, je l'ai formalisé, je l'ai théorisé, j'ai vu quelles étaient les notions, les écrits scientifiques qui pouvaient être attachés à ça. Je me suis dit, je vais faire une proposition créative et la création nourrit la recherche. C'est-à-dire, je me suis bien rendu compte en créant Keys of a Game Space, aujourd'hui, là, In My Heart, qu'il y a des vraies questions qui se posent à la recherche en termes de... qu'est-ce que c'est de créer du choix ? Qu'est-ce que c'est de créer une éthique du choix dans le jeu vidéo ? Parce que là, c'est vraiment ces questions-là qui se posent, hein, quand on parle des sujets aussi graves que ça. J'ai un choix créatif à faire, je fais mes choix en termes de créateur, mais après, je réfléchis un peu là-dessus et je me dis, mais en termes d'éthique, puis je vais voir du côté de l'éthique, on a écrit depuis des millénaires sur la question, les penseurs, etc. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je vais avoir un matériau aussi en termes de réception des joueurs, de la presse, de ci, de ça, qui va être des données qui vont alimenter ma recherche. Et donc, du coup, il y a comme ce cercle virtueux d'aller-retour, maintenant, je vais prendre un pas de recul. Et je pense que ce rapport de réflexivité, de distanciation critique, qui est quelque chose qui m'a formé sur l'identité aussi professionnelle, mais même personnelle, à force. C'est ce qui m'a permis aussi de te faire ce jeu-là, finalement, parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais parler de moi, mais je vais parler de moi comme si c'était quelqu'un d'autre, quoi. C'est la réflexivité du chercheur, quoi. Et c'est ce qui m'a permis aussi, parfois, de faire des choix qui ne sont pas forcément tendres avec Sébastien, celui qui est dans le jeu, parce que, au bout d'un moment, il faut se mettre de côté, justement, pour le bien, entre guillemets, de l'œuvre. Puis après, je me suis dit, de toute façon, les gens, ils penseront ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous, c'est comme ça.
Il y a un parallèle que j'ai trouvé intéressant, je crois que ça vient de Gonzalo Frasca, justement, qu'on a cité tout à l'heure, en tout début d'émission, qui est par ailleurs, pour les auditeurs qui le connaissent, le créateur de September 12, qui était présenté comme un des premiers Serious Games militants, avec un gros message autour de la guerre en Irak et ce genre de choses. Il faisait un parallèle, je crois que c'est lui, avec le théâtre de l'opprimé, d'Auguste Boal, le théâtre de l'opprimé, je connaissais le concept du théâtre de l'opprimé, mais je trouvais que le parallèle, finalement, avec le jeu vidéo expressif est assez, assez manifeste, en fait. Le théâtre de l'opprimé, c'est une pièce de théâtre avec qui décrit des situations, généralement très liées au réel, avec un script, avec un scénario, mais où les spectateurs peuvent intervenir et demander de, ou on leur propose de rejouer une pièce et les spectateurs peuvent proposer des alternatives et les acteurs réagissent aux alternatives des spectateurs.
Ouais, bah en fait, c'est exactement ça que j'avais à l'esprit quand j'ai commencé à réfléchir au concept de jeu expressif. C'était les écrits de Gonzalo Frasca sur le théâtre de l'opprimé. Mmh. Je me suis dit, mais c'est parfait ça, se mettre à la place d'autrui, etc. Ce qu'il y a, c'est que Gonzalo Frasca, en fait, dans la façon dont il a mis en application cette théorie, il a plutôt fait du jeu persuasif. Hein, d'ailleurs, il a un de ses collègues qui s'appelle Yann Bogost qui a travaillé avec lui, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Persuasive Games. Et je trouvais que finalement, il n'avait pas été au bout de sa démarche théorique dans sa créativité. C'est-à-dire, lui, il a fait, il s'est dit, ben oui, c'est bien de faire du théâtre de l'opprimé, mais pour être persuasif, pour une rhétorique derrière. Et je comprends tout à fait ce qu'il a fait, parce que Gonzalo Frasca, c'est aussi un journaliste, et lui, il voulait faire de l'essai politique avec du jeu vidéo. Mmh. Donc c'est ce qu'il a fait, hein, un jeu éditorial à propos, quoi. Voilà. Mais toute sa réflexion qu'il avait eue sur cette expressivité du jeu, de se mettre à la place d'autrui, il l'a mis de côté, et il n'a jamais poursuivi là-dessus, vraiment, enfin à mon sens. Hein. Et justement, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et par rapport à cet écrit de Persuasive Game de Yann Bogost, je me suis dit, mais non, il y a de l'expressive game. Et c'est autre chose. Et donc, j'ai essayé un peu de théoriser ça, bon, aussi avec d'autres collègues. Hein. On avait fait un séminaire de recherche là-dessus. Aujourd'hui, j'ai un de mes doctorants qui réfléchit aussi là-dessus, qui s'appelle Esteban Giner, qui a aussi un peu sa petite visibilité là sur YouTube, parce qu'il fait une chaîne qui s'appelle Esteban Green. Qui, voilà.
Il est venu dans Silence on joue.
Ah, il était venu, ouais, voilà. Donc voilà, Esteban réfléchit aussi là-dessus. Et du coup, ce que je suis très, très heureux, c'est que dernièrement, là justement, j'ai des collègues espagnols qui m'ont contacté, ils m'ont dit, on va faire un bouquin sur le concept de jeu expressif. Ils m'ont dit, on va faire un appel à chapitre. Et nous, ça nous intéresse d'ouvrir un pan de recherche dans le monde hispanophone sur le jeu expressif, parce que la façon, l'intitulé de leur bouquin de tête, comme ça sera la société... confronté à la modernité, les jeux expressifs. C'est-à-dire comment les jeux vidéo peuvent parler de problématiques de société. Et là, je me dis, voilà, même le concept de jeu expressif, j'espère, il va mener un peu sa vie propre, parce que ça vient effectivement à la base des réflexions de Gonzalo Frasca, même s'il ne parlait pas de jeux expressifs. Mais je le reformalisais comme ça, parce que je me suis dit, mais là, il y a un pan de réflexion, de recherche et de création qui a été ignoré. Faut l'activer, faut en faire quelque chose. Et puis maintenant, on verra bien ce que ça donne.
Pour résumer, le jeu expressif, c'est quelque chose qui n'est pas moralisant, enfin pas moralisateur en tout cas.
Exactement. Ouais. En fait, pour résumer ça, c'est un peu une formule alambiquée, mais qui résume bien le propos, c'est de dire, c'est des morales non moralisantes. C'est-à-dire, on a dans le jeu expressif différents points de vue, plusieurs morales qu'on peut adopter ou pas, faire des choix là-dessus. Hein, c'est l'exemple que je donnais dans la In My Heart. Quel point de vue moral je vais choisir pour expliquer, par exemple, le décès de sa maman à un enfant. Mais ce n'est pas moralisant. C'est-à-dire, je ne vais pas...
Imposer
une vision du monde.
Éthique.
Et c'est ce que tu disais sur The Dragon Cancer. Je suis assez d'accord avec toi. The Dragon Cancer, c'est très clairement moralisant. Je vous explique comment il faut pouvoir surmonter ce drame de vie en croyant à Dieu, en gros. Hein, et si je suis non-croyant, moi, ça me met un peu mal à l'aise. En tout cas, ça m'intéresse de me mettre à la place d'un croyant. Pourquoi pas ? Pour comprendre comment il comprend les choses, mais j'ai aussi envie de me dire à un moment, je peux porter un autre regard sur la même thématique. Et après tout, comme je suis dans le jeu, pourquoi pas m'offrir les différents choix, quoi.
Et même sur l'utilisation finalement de la métaphore aussi sélectionne au niveau. J'ai trouvé moi que l'utilisation métaphorique aussi joue comme un filtre. Enfin, c'est quand on propose le réel, on peut se positionner par rapport au réel. Mais est-ce qu'on peut se positionner par rapport à une métaphore du réel ? C'est toujours compliqué comme ça d'obtenir le même effet en fait.
Ce qui m'interpelle souvent quand on parle de mon jeu, on le dit, c'est sans filtre. Mais il y a toujours des filtres, hein, mais c'est vrai que là, ça dénote bien cet aspect de allez, on y va et on ne va pas essayer de donner déjà une interprétation, parce que la métaphore, en fait, c'est ça. C'est réinterpréter le réel pour lui donner une autre connotation, quoi. Hein, et du coup, là, mon idée, c'est cette surinterprétation, cette couche de surinterprétation, ben moi, je la laisse beaucoup plus ouverte et je la laisse aux joueurs, quoi. Et justement, il y a une métaphore dans le jeu, mais même dans cette métaphore-là, on peut la paramétrer, quoi. C'est le moment le plus ouvert du jeu, en fait. Et j'ai fait exprès de l'ouvrir à ce moment-là, même si les conséquences sont identiques à la fin de la séquence. Les répercussions par la suite ne sont pas identiques.
Juste pour, bah pour peut-être pour terminer cet entretien, mais c'est parler du jeu vidéo. C'est vrai qu'on est dans le jeu expressif, donc le jeu qui parle de la vie, mais finalement ces dernières années il y a une catégorie du jeu vidéo, le jeu vidéo d'aventure, le jeu vidéo narratif, qui sans être totalement dans le réel, on a eu quand même des propositions en termes de choix, en termes d'implication du joueur dans la narration, qui ont quand même fait évoluer un peu les possibles là, du jeu vidéo,
même en utilisant la métaphore, parce que
même en utilisant
par exemple,
la métaphore ou le fantastique
à What Remains of Edith Finch. Je pense que la scène la plus forte tient justement au moment où on entremêle le réel et la métaphore pour parler d'aliénation.
Moi, très clairement, c'est des jeux qui m'ont beaucoup apporté dans la réflexion. Je veux dire, que ce soit Firewatch ou What Remains of Edith Finch, moi, il y a une scène, forcément, dans What Remains of Edith Finch qui m'a énormément marqué, qui est la scène du bébé. Là, tout d'un coup, on est un bébé dans son bain, et puis il y a la métaphore de « je suis autre chose ». Et c'est cette métaphore-là qui devient hyper poignante et dramatique. Et du coup, je crois que... Oui, il y a des propositions très très fortes justement sur ce qu'on appelle le Walking Simulator, etc., sur l'évolution des formes narratives. Même un jeu qui m'a beaucoup marqué, Marc, c'est Her Story, sur une autre façon de laisser la narration ouverte aux joueurs.
On a parlé de Telling Lies il y a deux semaines dans Silence en Joue.
Donc c'est ce qui est riche aussi dans le jeu vidéo ou les jeux vidéo, c'est qu'il y a des formes narratives extrêmement variées, extrêmement complexes. Et on n'est pas obligé d'avoir des attentes, même moi je suis d'accord pour dire que je n'ai pas besoin forcément d'embranchement dans un jeu pour le rendre intéressant. What Remains of Edith Finch, il n'y a pas d'embranchement, je veux dire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon dont le gameplay me fait vivre des éléments d'une intrigue, et que même si cette intrigue peut sembler linéaire, elle est quand même très ouverte sur certains aspects interprétatifs que je peux en faire. Et voilà, et après tout, ne serait-ce que je rentre dans cette maison et puis je peux passer du temps à l'explorer ou pas. Et du coup, la narration suit une temporalité qui m'est propre. Et c'est ça qui est très intéressant dans What Remains of Edith Finch. C'est la façon dont je vais explorer un lieu et c'est cette narration spatialisée qui va faire advenir l'histoire. Rien que ça, c'est pas du cinéma, c'est pas de la bande dessinée tout à fait, c'est autre chose. Et donc dans la In My Heart, il y a aussi cette idée de j'ai des séquences, je peux plus ou moins m'y attarder. Je peux plus ou moins leur donner du sens aussi avec les choix que je vais faire.
Merci Sébastien Genevaux de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Silence on Joue. Il y a quand même, on est quand même dans Silence on Joue, donc il y a la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Sébastien Genevaux?
Là, j'ai été au ciné pour voir plusieurs choses. Moi, je suis un grand fan aussi de cinéma coréen. Donc forcément, j'ai été voir le dernier film. Là, tout d'un coup, là, on m'échappe.
Mais... j'ai pas prévenu.
En ce moment, je suis un peu dans ma période cinéma coréen. Bon, moi qui m'a aussi énormément marqué, hein, Memories of a Murder, par exemple. Grande claque. J'ai été voir le Joker. Que je trouve hyper intéressant, justement, dans son discours politique, très frontal, là aussi, justement, dans son réalisme et dans l'écho qu'il fait avec l'actualité, que ce soit à Hong Kong, avec les Gilets jaunes, avec plein de choses. Je trouve que c'est un film de son temps. Et là-dessus, moi, j'ai trouvé que c'était un film admirable, même si je sais qu'il y a certains confrères qui n'étaient pas d'accord dans l'intérêt du film. Mais moi, je trouvais que, justement, marquer à ce point un film grand public avec une connotation politique aussi forte, c'est un parti pris qui vaut la peine d'être vu.
Merci beaucoup, Merci à Marius aussi. Voilà. Et merci à Kevin Pogam d'avoir réalisé cette émission qui a été enregistrée comme d'habitude ces dernières semaines dans un studio de RMC. Encore merci Sébastien. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.